Attention, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Emballement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée. Le risque, lorsque l'on aborde ces crises écologiques, c'est de provoquer le déni ou le rejet. Comment alerter sans décourager? Comment donner envie d'agir plutôt que de fuir? Peut-être en allant à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins du globe, agissent déjà et mettent en œuvre des solutions qui, à leur échelle et dans leur domaine, vont dans le bon sens. Faire le tour du monde pour mieux le transformer, c'est avec cette idée en tête que Cyril Dion est parti avec l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent et une petite équipe dans 10 pays pour réaliser le documentaire Demain. À sa sortie en 2015, le film a connu un joli succès. Il y avait là de quoi s'inspirer et rêver. Et si changer le monde était à notre portée? 3 ans après, le monde n'est pas franchement tiré d'affaire, mais les initiatives présentées ont-elles fait des émules? Et Cyril Dion a-t-il encore l'espoir que, collectivement, nous parvenions à réinventer nos sociétés? En tout cas, il n'a pas baissé les bras, à en croire son dernier ouvrage. Petit manuel de résistance contemporaine paru chez Actes Sud. Cet après-midi, avec Cyril Dion, nous allons voir de quoi pourrait être fait l'après-demain, si on le voulait bien. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons, comme tous les mardis, Pierre Josse, notre train de savate planétaire. Nous verrons ce que lui a inspiré notre sujet du jour. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
Nous nous installons ici parce que c'est beau. Et que la beauté, je veux être, vivre dans un lieu qui est beau. Moi, c'est ça la richesse. C'est pas d'avoir un compte en banque, c'est ça la richesse. Et souvent, avec Michel, ma compagne, on se dit, mais nous sommes des rois. Nous nous levons dans le silence, il y a le beau paysage, il y a de l'air pur, j'espère. Enfin, l'air, je peux pas garantir qu'il est pur, mais enfin, je pense qu'il l'est, etc. Et bien, cette beauté extraordinaire, j'ai jamais voulu y renoncer. Et combien de gens maintenant renoncent à cette beauté? Et ils sont enfermés toute l'année. Alors on les voit arriver, déferler. Moi je ne les critique pas, je ne leur donne pas de leçons de morale. Je les estime en tant qu'être humain. Simplement, quelquefois je suis triste de voir ce qu'on a fait de l'être humain. Un besogneux qui est enfermé toute l'année et qui de temps en temps va glisser sur la neige ou va se bronzer sur la plage pour compenser l'aliénation qu'il subit toute l'année.
La voix de Pierre Rabhi, il fait partie des rencontres qui ont compté dans votre vie, Cyril Dion, Pierre Rabhi. Vous l'avez rencontré quand et dans quelles circonstances?
Je l'ai rencontré en 2006, à une époque où j'organisais des congrès israélo-palestiniens et des congrès d'imams et de rabbins pour la paix, ce qui m'a aussi fait voyager un peu. Et j'avais décidé d'arrêter ça. Ça faisait 5 ans que je m'échinais sur ce problème insoluble. Et on m'a proposé de faire plusieurs choses, dont créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi. Donc c'est une amie commune qui nous a présenté.
Mais en fait, vous n'avez pas toujours été, comme beaucoup finalement, sensible aux questions environnementales. Le déclic, c'est la rencontre avec Pierre Rabhi. À partir de quand vous commencez à vous soucier de l'avenir de la planète et être particulièrement sensible aux questions écologiques?
C'est venu un peu avant, mais effectivement la rencontre avec Pierre Rabhi a accéléré les choses, d'autant que ça devenait mon métier, donc il fallait que je me renseigne un peu quand même. Ouais.
Et vous avez fondé donc avec lui le mouvement Colibri en 2006, dont le nom est inspiré d'une légende amérindienne qu'on a beaucoup entendue, hein, cette légende du Colibri, mais je ne résiste pas à l'envie de vous demander de me la raconter quand même.
C'est une légende amérindienne effectivement, qui raconte qu'un jour les animaux de la forêt se retrouvent piégés au milieu des arbres en feu, la forêt est en train de se consumer, eux ils sont dans une clairière, ils regardent le feu, ils ne savent pas quoi faire, ils ont peur, et ils vont se réfugier près d'une rivière, tous sauf le petit colibri qui lui va chercher une goutte d'eau dans la rivière, va la mettre sur le feu, va chercher une goutte d'eau, va la mettre sur le feu, va chercher une goutte d'eau, va la mettre sur le feu, et au bout d'un moment les autres animaux l'arrêtent et lui disent « mais colibri arrête-toi, ça sert à rien, t'es minuscule, tes petites gouttes elles sont encore plus minuscules, tu vas jamais éteindre le feu avec ça ». Et il les regarde en face et il leur dit « Oui, je sais, mais je fais ma part.
Ouais. » Donc le mouvement Colibri, c'est chacun fait sa part à sa mesure, à ses moyens, et on sauvera peut-être le monde. Est-ce que vraiment, individuellement, dans la société dans laquelle on est, ça a un sens d'être un colibri qui essaye de faire sa part?
Ça a un sens dans la mesure où je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. C'est-à-dire que quand on voit la situation dans laquelle l'humanité est, enfin la direction que l'humanité est en train de prendre, on ne peut rien faire d'autre que d'essayer de se mobiliser. Après, ça suffit pas de se mobiliser dans son coin, ça suffit pas de faire simplement des petits gestes, ça c'est sûr. Mmh. On parle là, en ce moment, de la sixième extinction de masse des espèces. 50% des populations d'animaux vertébrés ont disparu depuis 40 ans. 80% des insectes ont disparu d'Europe ces 30 dernières années. 30% des oiseaux. Donc c'est pas en prenant une douche plutôt qu'un bain que ça va vraiment profondément changer les
mais
choses.
Voilà, vous le dites, mais du coup il y a ce côté désespérant, c'est-à-dire que effectivement, par exemple le thème de l'eau, quand on sait que nous particuliers on représente 9% de la consommation de l'eau par rapport à l'agriculture, par rapport à l'industrie, par rapport à des tas de d'autres choses qui utilisent beaucoup plus d'eau. Donc nous, quand on nous dit bah coupez l'eau quand vous vous brossez les dents, c'est vrai que ça nous coûte pas cher de le faire, mais est-ce que vraiment on est en train de régler le problème?
Non, évidemment non. Par exemple, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour la consommation d'eau, manger moins de viande, ça a infiniment plus d'impact parce que ça a un impact direct sur l'agriculture. Manger bio et local, donc une agriculture qui va être beaucoup moins gourmande en eau, puisque en agriculture biologique, les sols sont beaucoup plus riches en humus, donc qui retiennent beaucoup plus l'eau. Un sol gorgé de compost peut retenir 2 à 3 fois son poids en eau. Ça a plus d'impact que de couper le robinet en se brossant les dents, ce qui n'empêche pas de le faire.
Oui, c'est ça. Ne serait-ce que pour l'éducation, la sensibilisation, se sentir concerné.
Non, mais ne serait-ce que parce que tout ce qu'on fait a un impact, même s'il est petit. Mmh. Et en additionnant tous ces petits impacts, ça en a un plus grand. Ouais. Mais la situation est tellement grave et l'urgence est telle que là, il faut passer la seconde, voire même la troisième, voire même la quatrième.
Alors justement, il y a urgence, il faut convaincre. D'ailleurs, alors on parlera dans cette émission à la fois de ce documentaire « Demain » qui a marqué les esprits, et puis de votre petit manuel de résistance contemporaine paru chez Actes Sud beaucoup plus récemment, où le ton est un peu plus différent, l'idée est un peu différente. Dans le documentaire « Demain », c'était « Allez, on s'enthousiaste » pour les initiatives positives, on essaie de s'inspirer, on montre que tout ça peut être joyeux et positif. Là, on sent qu'il y a envie de convaincre, d'être plus dans la théorie et de conceptualiser ça
en fait,
plus formellement.
Demain, l'objectif, c'était de raconter une histoire, de montrer à quoi la société pourrait ressembler si on faisait les choses correctement,
ouais,
d'une certaine manière. En allant chercher certaines des meilleures solutions qu'on connaissait dans plein de domaines et en les mettant bout à bout, comme un puzzle. Là, la tentative est d'aller encore une fois à l'étape suivante, qui est de se dire comment est-ce qu'on passe de plein de petites initiatives super mais morcelées à un changement plus systémique de la société. Ce qui demande à la fois de la pensée et à la fois de la stratégie.
Voilà. On est déjà plus dans la stratégie. Voilà, vous le formulez évidemment de façon beaucoup plus claire. Comment on fait pour convaincre, pour être dans la stratégie et pour ne pas passer pour un donneur de leçons, pour pas être contre-productif parce que finalement on en devient celui qui sait, qui dit ce qu'on doit faire.
Il y a une phrase de Gandhi qui est assez connue qui dit montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Essayer de faire la morale à quelqu'un et de lui dire que ce qu'il fait c'est pas bien et de lui dire qu'il devrait faire autre chose, honnêtement ça marche pas. Si vous essayez encore de faire ça parmi les personnes qui nous écoutent, vous pouvez vous arrêter tout de suite. Vraiment, ça n'a absolument aucun impact. Je raconte toujours cette petite histoire qui m'est arrivée avec mon fils, où un jour on était à la maison et il y avait des souris et j'essayais de me débarrasser des souris qui étaient dans les placards, qui nous mangeaient les pattes, etc., en calfeutrant les placards, en mettant des trucs à infrasons, en nettoyant tout pour qu'il n'y ait rien et que ça les attire pas. Et un jour, en désespoir de cause, je mets un piège au milieu de la cuisine. Mon fils avait 6 ans à l'époque. On descend le matin et on retrouve une souris couic, prise dans le piège, donc un peu décapitée. Et il regarde la souris, il me regarde et il me dit « Alors l'écolo, on tue des animaux ?» Et ce jour-là, je me suis dit « Mais je pourrais bien lui raconter tout ce que je veux. Si moi, je ne mets pas en pratique ce que je lui dis, ça n'aura absolument aucun impact. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour votre belle-mère, pour votre collègue de bureau, pour votre famille qui a pas forcément envie de se mettre à trier ou à manger moins de viande, etc.
Sur ce coup-là, c'est votre fils qui a fait votre éducation. Mais cela dit, ça veut dire qu'on peut aussi y arriver en mettant les gens face à leurs contradictions, en les
absolument,
cherchant.
Absolument.
Puisque c'est ce qu'il a fait pour le
coup.
Oui,
ma femme aussi fait ça très souvent.
Alors, dans Demain, revenons-y à ce film quand même qui a marqué les esprits. Vous vouliez montrer qu'il y a des initiatives qui marchent et puis qui existent déjà partout dans le monde. Vous êtes passé par une dizaine de pays. Comment vous les aviez choisi ces pays un peu exemples?
Alors, on avait plusieurs critères. Le premier critère, c'est que je voulais que ce soit des initiatives qui marchent vraiment et sur lesquelles on ait un peu de retour d'expérience. C'est-à-dire que ce soit pas quelque chose qui vient de démarrer il y a un an et qui a l'air super, mais qu'on peut pas vraiment mesurer. Je voulais aussi que ça soit cinématographique, donc qu'on ait des beaux décors, qu'on ait des belles histoires à raconter. Je voulais qu'on ait des personnages qui soient charismatiques, qui soient touchants et qui soient capables de transmettre, justement. Mm-hmm. Parce que l'idée de demain, c'était ça. C'était de montrer des gens comme des exemples qui puissent nous permettre de nous identifier à eux. Et puis, on avait choisi plus particulièrement des exemples en Occident. Parce que, et c'est un peu le thème du petit manuel de résistance, parce que l'Occident a été la source du récit dominant de nos sociétés consuméristes actuelles, qui a contaminé le monde entier et qui a donné envie à plein de pays de vivre comme nous. Et donc je trouvais que c'était très puissant de montrer que les populations occidentales et que l'Occident était en train enfin certaines personnes en Occident étaient en train d'écrire un nouveau récit et que ça pouvait à la fois avoir un impact sur les populations occidentales elles-mêmes qui pouvaient s'identifier à ces personnes et sur toutes les personnes qui vivent dans les autres parties du globe qui pouvaient voir ça comme un encouragement à ne pas tomber dans ce modèle consumériste.
Avec justement des contre-exemples hein, de ce domaine, de ce monde consumériste, notamment le film Demain commence sur Détroit, donc une ville aux États-Unis qui est un peu, là on est presque dans le symbole, dans l'emblème en tout cas d'un monde qui s'écroule, d'une ville qui s'écroule. Pourquoi Détroit est emblématique?
C'est très emblématique parce que c'était un des berceaux de l'industrie automobile, donc d'un des maillons essentiels de notre société actuelle, de l'industrie aussi, hein, au sens large du terme, et qui a connu une sorte d'effondrement, à la fois économique et à la fois social, puisque les émeutes qui ont eu lieu à Détroit ont aussi créé un fossé énorme entre les populations afro-américaines et blanches. Et c'est vrai que quand on arrive à Détroit, c'était notre premier tournage, la toute première ville où on est arrivé. C'est une ville fantôme, c'est-à-dire que c'est taillé à l'américaine, donc avec des énormes buildings, des énormes avenues, des grandes banlieues. Il y a, historiquement, il y avait 2 millions d'habitants dans la ville, aujourd'hui il n'y en a plus que 700 000. Donc il y a ces grands gratte-ciel avec des fenêtres cassées, qui sont tout noirs, qui sont complètement inhabités. Ces maisons qui ont été incendiées dans les banlieues, ces théâtres, ces écoles, ces églises abandonnées à moitié en ruine, et on se balade là-dedans en se disant ben si le monde dans lequel on vit s'écroulait, ça ressemblerait peut-être un peu à ça. Ouais.
Alors, évidemment, ce ne sont pas les plus riches hein, qui sont restés à Détroit. Ils se sont retrouvés dans cette ville en train de péricliter et ils ne se sont pas laissés abattre pour autant. C'est là où il y a quand même de l'espoir dans tout ça, c'est que dans cette noirceur, dans cette ville écroulée, des initiatives intéressantes ont vu le jour, notamment pour faire pousser de la nourriture en ville.
Mais ce qui est intéressant, c'est que on pourrait avoir tendance à se dire que quand tout s'écroule, les gens vont s'entretuer ou se mettre à essayer de se voler les uns les autres. Et en fait, la dynamique est souvent inverse, c'est-à-dire que c'est souvent des mécaniques de solidarité qui se mettent en place. Et là, donc, c'est 83 ou 87% de la population qui aujourd'hui est afro-américaine. Ça a peut-être changé ces dernières années parce que la ville est redevenue très attirante, notamment pour les artistes et tout ça, mais enfin, à l'origine, c'était ça. Et un des problèmes principaux, c'est qu'on n'arrivait plus à trouver de la nourriture fraîche. C'est-à-dire qu'il y avait plus de marché, il y avait plus que des supermarchés qui vendaient des trucs emballés, de la junk food, en gros. Et donc les parents, naturellement, se sont inquiétés pour l'alimentation de leurs enfants. Et comme il y avait des friches énormes, puisqu'il y avait des bâtiments qui avaient été détruits et que des gens étaient partis, ils se sont mis à faire de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, il y a plus de 1600 fermes à Détroit qui alimentent des marchés. Et le marché de Détroit est devenu l'un des marchés les plus grands aux États-Unis. Nous, on se rend pas compte parce qu'on a encore des marchés en France, mais aux États-Unis, ça existait quasiment plus. Et ils ont recréé tout un tas de métiers autour de l'alimentation, à la fois des food trucks, à la fois des gens qui se sont mis à réapprendre à faire la cuisine à des personnes qui ne cuisinaient plus, qui achetaient plus que de la nourriture toute faite, tout emballée, qu'ils avaient juste à mettre au micro-ondes, à la fois des programmes éducatifs pour les enfants, pour leur réapprendre à cultiver les légumes, à comprendre d'où viennent leur nourriture, mais aussi à ensuite la transformer. Et ça a redonné un dynamisme à la ville qui a été assez dingue parce que l'agriculture urbaine s'est beaucoup redéployée dans plein de villes nord-américaines à partir de Détroit.
Autre initiative qui a vu le jour à Détroit, les Fab Labs. On arrête donc de surconsommer, de jeter, on répare et on fabrique soi-même.
Je n'achète pas beaucoup de trucs, mais si j'ai besoin de quelque chose, si mon téléphone est cassé par exemple, je peux venir le réparer ici sans que ça me coûte de l'argent. J'ai fabriqué mon vélo ici. De nos jours, la consommation est la norme. On achète plutôt que de fabriquer ou de réparer ce que l'on a. J'ignore si on va pouvoir continuer à épuiser les ressources, ou même les gens, pour faire ce dont on a besoin. Il est évident que nous dépendons d'institutions et de systèmes pas toujours soucieux de nos intérêts. Ce qui me motive, c'est de développer la capacité des gens à faire baisser leur dépendance vis-à-vis de ces systèmes et de ces corporations.
Rencontre avec Jeff Sturge. Alors là, on n'est pas dans le film Demain, on est dans les bonus du DVD Demain.
C'est
comme
une partie qu'on n'avait pas montée.
Ouais. Voilà, on donne à écouter des choses un peu plus nouvelles, un peu plus originales. En quoi les Fab Labs sont peut-être un début de réponse aux problèmes que l'on rencontre?
Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on revient à des choses qui étaient naturelles dans la société avant qu'on soit dans la consommation de masse, où maintenant, on a l'impression qu'on peut se permettre d'acheter n'importe quoi, de l'utiliser 5 minutes. Là, j'ai une petite bouteille d'eau à côté de moi. C'est assez fou de se dire que on a utilisé autant d'énergie pour fabriquer cette bouteille que je vais finir de la boire et qu'elle va partir à la poubelle tout de suite. Les Fab Labs, c'est l'inverse. C'est de se dire, comment est-ce qu'on peut réparer nos objets? Donc là, ce jeune garçon qu'on a rencontré dans ce Fab Lab, lui, il disait, moi, j'achète pas grand-chose. Je viens fabriquer ou réparer dans le Fab Lab. Il vient réparer son téléphone. Il s'est fabriqué des petites enceintes pour écouter de la musique. Il vient réparer son vélo. Il y a une femme qui leur apprend à faire de la couture, plutôt justement que la fast fashion, c'est-à-dire acheter des fringues tout le temps et puis les jeter au bout de 2 mois parce que c'est plus la mode et puis en racheter. Ben, eux, ils réapprennent à customiser leurs jeans ou à réparer des boutons de leur chemise ou leurs chaussettes ou leurs trucs et leurs machins, ce qui était des choses qu'on faisait avant, que nos grands-mères ou nos grands-pères faisaient naturellement.
Mais les Fab Labs sont en train de se développer, parce que là, on a un peu de recul, puisque ce film est sorti en 2015, vous avez filmé même un peu avant. Donc
on a filmé en 2014, oui.
Ça a déjà 4 ans. Est-ce que ça s'est développé? Ailleurs?
Ça s'est développé et ça se développe dans plein d'endroits. Et il y a une autre partie du Fab Lab qui est pas seulement de la réparation, mais qui est presque très technologique, notamment avec les imprimantes 3D, où l'idée est de pouvoir faire de l'industrie à toute petite échelle. C'est-à-dire de pas être obligé de produire des objets en masse. Et donc aujourd'hui, avec des imprimantes 3D, dans des Fab Labs, il y a des gens qui construisent des maisons, des gens qui construisent des voitures. Il y a des gens qui construisent des pièces pour réparer justement des réfrigérateurs, des imprimantes, des pièces qui n'existent pas puisque c'est des pièces standards et qui vont pouvoir les refaire. Et ça se développe en parallèle d'un autre phénomène qui s'appelle les Repair Cafés, qui là aussi, elles vont en poupe.
Nous poursuivons notre tour du monde des initiatives qui pourraient nous aider à prendre soin de notre planète et donc de nous-mêmes. Le temps d'un bivouac avec Cyril Dion sur France Inter jusqu'à 18h. Waking up too early, heavy set in my routine. I don't like it when things fall out. I don't like it when they leave me. If I finally understand how it is to be noticed, how it is to be loved, then I can sleep through the morning. Be at home, gonna keep my head down, cause if I ever see too clearly, gonna knock the light out. It's okay to be alone, cause I'm gonna make it happen, gonna make it perfect, better than it has been. Fine, but it could be a little better. Okay,
Maybe I'm thinking too much and you're just clearer. Okay. And I'm begging for your words. To be something good I've never heard. I'm crying, there's something wrong. You don't want to be.
C'était cool, Anne à vous sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Et les poules, les poules, les poules. Et les poules, les poules, les poules.
Là, on a un exemple d'association, on met du basilic sous les pieds de tomate. La tomate étant une liane, elle va attraper la lumière par le haut. Le basilic lui supporte tout à fait la mi-ombre, c'est absolument pas un problème. Et tous les deux vont se contenter de finalement assez peu d'eau. Et le basilic, ayant une odeur assez forte, hein, il est inhibiteur des indésirables qui pourraient venir se coller sur les tomates. Et en plus, la vigne fait un espèce de paravent. Elle dégage de l'humidité, ce qui n'est pas inintéressant pour les légumes qui sont en dessous. En tout cas, avec un été comme on l'a en ce moment, avec pas mal de chaleur. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a du raisin. Donc tout produit, mais le but de chaque plante n'est pas uniquement de produire, c'est aussi de jouer un rôle dans cet écosystème, en fait. Tout le monde a plusieurs fonctions, et c'est ça qui est génial dans cette fameuse permaculture. Et cultiver comme ça, le challenge intellectuel, il est beaucoup plus important que quand j'étais juriste, où je faisais des trucs hyper compliqués, même pas dans ma langue en plus, c'est dans plein d'autres langues différentes. Et là, je suis obligée d'apprendre plein d'autres langues aussi, des choses que je connais pas. Et je pense que c'est un... ça donne une confiance et une espèce de pouvoir. Alors, c'est peut-être pas une très bonne image, mais... être capable de produire sa propre nourriture, ça te donne un truc, tu vois. Genre, voilà, je peux survivre.
Un extrait du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 10 pays traversés pour découvrir des initiatives qui, si on s'en inspirait, pourraient changer le monde. Alors pas forcément besoin d'aller très loin pour trouver de bonnes idées. Nous étions là donc en France, dans la ferme Bec et Loin, en Normandie plus précisément, où on pratique donc la permaculture avec des rendements très impressionnants, hein, Cyril Dion. Vous nous rappelez ce que c'est que la permaculture ?
La permaculture, c'est un concept qui a été inventé par deux Australiens qui s'appellent David Holmgren et Bill Mollison dans les années 70 et qui n'est pas réservé à l'agriculture. L'idée, c'est de construire des organisations qui sont inspirées de la nature et qui sont des écosystèmes résilients, c'est-à-dire qui sont capables de durer dans le temps. Mmh. Culture permanente, ça veut dire permaculture.
Et on a, alors pour rester dans le domaine du jardinage, ou plutôt de l'agriculture, là, à la ferme Bec et Loin, 8000 espèces sur un hectare. Mmh. En fait, c'est en ça qu'on copie la nature et les écosystèmes, c'est que plutôt que de labourer et de dire « je ne veux voir qu'une espèce, qu'un épi, qu'une rangée », là, on laisse les interconnexions entre espèces se faire, et ça permet des rendements mais bien supérieurs à ce qu'on appelle pourtant l'agriculture intensive.
Oui, mais en fait, il y a des agronomes maintenant qui disent qu'on peut faire de l'intensif biologique, entre guillemets. Eux, ils sont vraiment appuyés à la fois sur la connaissance de la nature, sur la façon dont fonctionne la nature. Par exemple, dans la nature, il n'y a jamais de sol à nu.
Ouais.
Il y a toujours un couvert qui protège la terre et qui lui permet de garder son humidité, qui permet à la vie du sol de proliférer grâce à cette humidité, parce que sinon en fait les rayons du soleil sèchent le sol, il se minéralise, il devient dur comme du caillou, et donc tout ce qui vit dedans disparaît. Donc là on va faire du paillage, on va faire aussi des buttes pour essayer d'agréger un maximum de terres arables. Ils sont aussi inspirés du fait que dans la nature il y a énormément de diversité, Donc là, plutôt que justement avoir de la monoculture, on va essayer de chercher quelles sont les espèces qui marchent bien les unes avec les autres. On va aussi essayer de densifier les cultures, ouais. Parce que finalement, le fait de les espacer, ça c'était à cause des machines. C'est parce que les machines ont besoin d'espace pour pouvoir travailler. Mais si on fait à la main, on n'a pas besoin. Donc là, dans le film, Charles, qui gère cette ferme avec Perrine, nous montrait que sur un espace où un tracteur ferait 3 rangs de légumes, lui, grâce à un semoir de précision très élaboré, grâce à toutes ces techniques et à la densification des cultures, il pouvait faire jusqu'à 26 rangs de légumes. Donc, au final, en agrégeant toutes ces techniques, on arrive à avoir un rendement qui est jusqu'à 10 fois plus important que ce qu'on aurait avec de l'agriculture chimique, sans utiliser une goutte de pétrole, sans utiliser de machine, et en redonnant de la vie au sol, en redéployant de la biodiversité, en stockant du carbone, etc.
C'est-à-dire qu'on fait à la main, sur 1000 m², on produit, on fait pousser autant de légumes et de cultures maraîchères qu'on le ferait sur un hectare, c'est-à-dire 10 000 m², 10 fois plus, avec un tracteur. Exactement. Sauf que là, on n'a pas besoin de tracteur, on n'a pas besoin d'essence.
Et ils sont notamment inspirés des travaux des maraîchers de Paris. Parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais entre 1850 et 1900, Paris était totalement autosuffisant en légumes. Je ne sais pas si vous savez combien il y avait d'habitants à Paris à l'époque.
Je ne sais pas, 500 000 ?
Et non, il y avait 1 900 000 habitants, quasiment autant que maintenant. Ouais. Il y avait 600 hectares qui étaient cultivés et il y avait un maraîcher justement pour 1000 m². Et il faisait jusqu'à 8 rotations par an, c'est-à-dire que sur la même parcelle, il faisait 8 cultures différentes dans l'année. Aujourd'hui, un maraîcher, il fait en gros 1,2 rotations par an.
Ouais. Mais alors, en vous entendant, mais c'est d'ailleurs ce qu'on se dit en voyant le film demain, que j'ai revu évidemment pour l'occasion, c'est comment en est-on arrivé là ? C'est-à-dire que on a pris plein de... Alors on a besoin d'un tracteur dans lequel on doit mettre de l'essence, on a besoin de surfaces gigantesques et il faut rajouter des produits phytosanitaires pour finalement des rendements. Mais tout le monde est perdant avec ce système. Alors pourquoi cet emballement ? Pourquoi on fait à ce point fausse route ?
Il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu la guerre qui a obligé en fait à faire pousser de la nourriture très vite en très grande quantité. Donc, l'idée était d'appliquer les processus industriels qu'on avait déjà pour la fabrication d'un certain nombre d'objets à l'agriculture, et ce qui a permis à un certain nombre de sociétés de recycler à la fois, c'est Claude Bourguignon qui explique ça, les tanks en tracteur, un certain nombre de nitrates qui étaient utilisés pour faire des explosifs, pour faire des nitrates agricoles, pour faire des engrais. Et petit à petit, on est rentré dans une industrialisation de l'agriculture qui est devenu quelque chose de géré par des grandes multinationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes multinationales de l'agroalimentaire vendent des espèces de packages. C'est-à-dire qu'elles vont vous vendre des semences avec les engrais qui sont adaptés, avec les pesticides qui sont adaptés, avec les tracteurs et les outils qui sont adaptés, avec l'informatique qui est adaptée aujourd'hui. Ce qui fait que les paysans vont s'endetter de façon assez considérable pour acheter tout ça. Et ensuite, ils sont coincés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent du rendement, qu'ils travaillent comme des dingues, qu'ils aient le moins possible de main d'œuvre pour pouvoir rembourser tout ça.
Comment on fait machine arrière ?
On fait machine arrière à la fois en transformant le récit, c'est ce que je raconte dans le petit manuel de résistance contemporaine, en racontant d'autres histoires sur l'agriculture, ce qu'on a raconté là avec le Bec-et-Loin, ce qu'on a raconté avec les maraîchers de Paris, mais il y a de multiples exemples. Il y a des exemples extraordinaires de permaculture en Autriche, il y a des exemples extraordinaires d'agroforesterie, c'est-à-dire on réintroduit des arbres dans les champs et où ça donne des rendements exceptionnels parce que les arbres ameublissent le sol, ils vont chercher des minéraux qui remontent, ils climatisent, ils font une espèce de couvert justement qui fait que le sol est pas attaqué par les rayonnements de façon trop violente. On change en faisant en sorte que ces récits poussent des jeunes à s'installer et à faire des pratiques agricoles différentes, en consommant différemment, nous, en choisissant finalement des produits qui viennent d'exploitations qui pratiquent la permaculture, l'agroécologie, l'agriculture biologique, en faisant du lobbying politique, en faisant en sorte que nos dirigeants transforment la politique agricole commune en Europe, fasse que les subventions aillent plutôt vers ce genre d'agriculture, en faisant en sorte que la restauration collective se fournisse plutôt auprès de ces agriculteurs, ce qui s'est passé là avec les 25% d'alimentation biologique dans les cantines, ce qui devrait aller beaucoup plus loin. Donc c'est un faisceau finalement
Ouais, c'est un faisceau, c'est un sacré défi, mais les sacrés défis ne vous font pas peur parce que vous êtes aussi prêt à envisager l'après-pétrole, apprendre à se passer complètement du pétrole. Alors, certains sont déjà lancés dans l'aventure, hein. Vous nous emmenez en Islande. Les Islandais l'ont envisagé, se débarrasser des carburants fossiles à l'échelle du pays entier. Et vous êtes donc passé par ce pays dans votre documentaire demain.
Ici, on voit ces pipelines venant des montagnes et alimentant cette centrale, qui produit 300 MW d'électricité et d'eau chaude alimentant toute la ville. En France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Italie, les ressources existent pour remplacer les carburants fossiles pour le chauffage et la production d'eau chaude par la géothermie. Dans les pays en développement, les potentiels sont immenses. Bien que dans le Rift africain, on pourrait produire 15 gigawatts d'électricité géothermique au Kenya et en Éthiopie, par exemple, l'équivalent de 20 centrales nucléaires.
C'était Gudni Johansen, directeur général de la Compagnie nationale de l'énergie en Islande. À l'entendre, alors, est-ce que c'est l'Islande qui est particulièrement favorisée pour utiliser la géothermie, parce qu'on sait à quel point c'est une terre vivante, l'Islande, mais à l'entendre, ça pourrait se généraliser ces initiatives qu'ils ont faites en Islande.
Oui, alors après, il y a encore de la recherche et développement, parce que quand on dit aujourd'hui que les énergies renouvelables n'utilisent pas de pétrole, c'est pas vrai, puisque notamment pour faire toute l'extraction de minerais qui demande, dont on a besoin pour les panneaux solaires, pour les éoliennes et pour les infrastructures des énergies renouvelables, on utilise encore du pétrole.
Ouais.
Donc on a vraiment, vraiment besoin de réfléchir à des techniques qui sont de plus en plus libérées de tout ça. Mais ce que montre l'Islande, c'est qu'il faut utiliser nos ressources. Donc là, l'Islande, eux, c'est la géothermie et l'hydroélectricité qu'ils ont en abondance. Il y a d'autres régions du monde, c'est vraiment le soleil. Il y a d'autres régions du monde, comme au Danemark où on a été, c'est le vent, ou le Portugal. Mmh. Aujourd'hui, le Danemark et le Portugal, certains jours, produisent 140% de leurs besoins énergétiques grâce aux éoliennes.
Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils font des 40% qui restent alors?
Alors, au Danemark, par exemple, ils le font stocker par la Norvège, qui le stocke avec un système d'hydroélectricité, et les jours où ils produisent moins, la Norvège réimporte, en fait, réexporte plutôt cette énergie vers le Danemark.
Donc on utilise l'énergie pour faire monter de l'eau, c'est ça, hydroélectricité?
Non, l'hydroélectricité, en fait, où on l'utilise de façon naturelle, c'est-à-dire quand on a un cours d'eau avec un dénivelé, la force de l'eau qui descend, on va la récupérer pour faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité, ou on peut le faire avec un système de ce qu'on appelle de pompage-turbinage, c'est-à-dire qu'on peut le faire de façon artificielle, en pompant l'eau pour la faire monter, et ensuite redescendre et produire de l'électricité avec ça.
Ouais. Allez, on se retrousse les manches et on réinvente le monde en s'inspirant des bonnes initiatives intéressantes qui fleurissent ici et ailleurs. Le temps d'un bivouac avec Cyril Dion sur France Inter.
Tes bottines qui bloque la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment. monuments, petits ou grands.
Je suis un grain de poussière de Jacques Higelin et notre invité Cyril Dion me disait mais elle a été faite pour cette émission, pour moi, cette chanson d'Higelin.
Pendant très longtemps, le mode de conditionnement, c'était de mettre les enveloppes à la main dans des boîtes. Pour remplacer ce système, on les met en bobine. Il y a 38 000 enveloppes sur une bobine et du coup, on a réduit d'un tiers notre consommation de boîtes de carton. En plus, tu gagnes de la productivité parce que ça va beaucoup plus vite.
En 1998, on est passé à des encres totalement à base d'eau et de pigments naturels, ce qui nous permet aussi maintenant de plus utiliser de produits chimiques et toxiques pour nettoyer les machines, mais uniquement avec de l'eau.
Dans la machine à laver, c'est de l'eau de pluie et du savon de Marseille. Et cette eau-là, qui est donc souillée mais non toxique, on va l'envoyer dans les bambous. Et c'est le système racinaire des bambous qui active des bactéries, qui décompose la souillure, qui s'en nourrit. La seule biomasse générée, c'est la tige du bambou qui pousse, qu'on coupe, qu'on sèche et avec laquelle on se chauffe.
Une usine d'enveloppes en France qui a fait sa révolution et on s'en aperçoit, Cyril Dion, c'est encore un extrait de votre documentaire Demain. Et cet exemple montre qu'on peut faire de l'écologie et être rentable. C'était un peu le but. Mais la question qu'on se pose peut-être assez souvent quand on voit tout ça et à laquelle vous répondez quand, dans votre livre Le Petit Manuel de Résistance Contemporaine paru chez Actes Sud, c'est ces exemples ponctuels qui sont très vertueux où on se dit c'est formidable, à quel point ils sont transposables et on peut en faire des généralités sur toute la planète.
Mais l'idée, c'est justement pas d'en faire des généralités. Ça, c'est ce que la société actuelle a cherché à faire, à standardiser, à trouver un principe et à l'appliquer partout de la même façon. Pour faire du McDo, pour faire du Coca, pour faire des Nike, pour... Là, au contraire, le modèle de société qui, à mon avis, pourrait nous permettre de nous en sortir, c'est un modèle comme la permaculture qui est fondée sur la diversité. Où on a des grands principes, donc les grands principes là, en l'occurrence, c'est s'inspirer de la nature, faire en sorte d'être les plus légers possibles dans notre empreinte, c'est-à-dire détruire le moins possible de ressources naturelles, voire même de les régénérer, mais d'adapter ça à chaque contexte, à chaque contexte social, à chaque contexte géographique, comme je le disais tout à l'heure avec les énergies renouvelables, en regardant bon, c'est quoi nos ressources, ou c'est quoi nos savoir-faire ici, ou c'est quoi notre type de culture. Donc par rapport à notre type de culture, qu'est-ce qu'on va avoir envie de produire? Comment est-ce qu'on va le produire? Quel type d'alimentation? Qu'est-ce qu'on va faire venir au contraire de l'étranger pour compléter, mais de pas être dans toutes les mêmes usines partout qui malheureusement ont toutes les mêmes impacts dévastateurs.
Ouais. Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que ce que vous nous donnez, cette façon un peu chirurgicale d'intervenir, très minutieuse, un petit peu au goutte à goutte, dans la situation aussi urgente que vous nous décrivez, le premier chapitre de votre ouvrage, Le Petit Manuel de Résistance Contemporaine, vous y allez franchement, hein, vous nous dites, c'est l'équivalent de la Troisième Guerre mondiale qui va nous tomber dessus si on ne réagit pas, donc vraiment vous tirez la sonnette d'alarme et clairement, est-ce qu'avec cette façon d'agir, on a une chance de s'en sortir?
Là, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut passer à l'étape supérieure. Je prends la métaphore d'une guerre mondiale justement parce que, par exemple, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie américaine s'est complètement transformée en quelques mois parce que l'urgence était là et que Roosevelt avait pris un certain nombre de mesures politiques et que chacun, là où il était invité à faire tout ce qu'il pouvait. C'était pas des grands changements structurels dans l'économie. C'est chacun, là où il était, qui faisait tout ce qu'il pouvait. Et en quelques mois, l'économie américaine est passée d'une économie de paix à une économie de guerre. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à transformer notre économie, à transformer nos façons de vivre avec la même ampleur et la même vitesse. Donc, ça va demander non seulement de démultiplier les exemples tels que ceux dont on vient de parler, mais ça va aussi demander qu'on s'organise. Je parle de résistance parce que la résistance, avec les armées alliées, a fait en sorte de saboter, entre guillemets, le régime nazi, et a fait en sorte de proposer un autre imaginaire. Aujourd'hui, on a besoin de faire ça. Moi, ce que je déplore, c'est que le milieu écologiste, par exemple, soit très peu organisé. Aujourd'hui, si on regarde par exemple la loi alimentation qui vient de passer, les grandes multinationales de l'agroalimentaire étaient très bien organisées pour défendre leurs intérêts au moment où la loi a été votée. A contrario, les grandes ONG ou la société civile en général, alors que à 90% les gens pensent par exemple qu'on devrait sortir du glyphosate, comme nous ne sommes pas suffisamment bien organisés pour faire pression, pour faire valoir ses intérêts et pour déclencher des stratégies de victoire, et ben malheureusement, une toute petite poignée de personnes continue à avoir le contrôle de la situation.
Alors la stratégie précédente, hein, c'était avec ce film demain de planter des graines, de donner envie, de s'inspirer, d'adapter les solutions montrées à son propre domaine, à sa discipline. Là, il y a un peu de recul maintenant. Hein, 3 ans après la sortie de Vers le film a marché, hein, plus 1,5 million, certainement plus maintenant de spectateurs. Il a été récompensé au César. Je suis pas sûr que c'était pour ça que vous l'aviez fait. Aujourd'hui, est-ce que le but est atteint? Est-ce que les initiatives ont essaimé?
Elles ont essaimé, ça c'est sûr. On a plus de 1000 projets qui ont été recensés sur le site internet du film, à tel point que France 2 nous a commandé, j'ai fait ça avec une journaliste et réalisatrice qui s'appelle Laure Noila, un 70 minutes qui va être diffusé au mois de décembre, qui s'appelle Après-demain, où on a été à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait des choses après avoir vu le film.
Ça et elles sont nombreuses alors, ces personnes qui se sont inspirées du film pour elles-mêmes agir ensuite?
Elles sont nombreuses et elles sont diverses. Vous verrez dans le film, il y a des gens par exemple comme Anne Hidalgo qui se revendiquent clairement de demain pour sa politique, là le plan climat qui est en train d'être voté pour que Paris soit neutre en émissions de CO2 en 2050. Ça peut être des entreprises. On voit dans le film une salariée de La Poste qui a lancé un projet de jardin en permaculture sur un des toits de centre de tri Postaux à La Chapelle, qui a conduit le PDG de La Poste à inaugurer le centre de tri et à dire « c'est génial, on va essayer de refaire la même chose sur tous les centres de tri possibles en France ». Mais ça peut être aussi des individus lambda qui ont changé de boulot, qui ont des étudiants qui ont changé de cursus, ou simplement qui ont changé des habitudes dans leur vie de tous les jours.
Alors Cyril Dion, en attendant votre film Après-demain, donc qui sera diffusé en décembre sur France 2, on peut revoir votre documentaire demain en DVD. Je rappelle aussi le titre de votre dernier livre chez Actes Sud, Petit manuel de résistance contemporaine. Et puis restez avec nous parce que ce qui va suivre pourrait vous plaire. Chris. Puisque avec nous, dans un instant, c'est Pierre Josse, notre traîne savate planétaire, qui va vous raconter quelques souvenirs de voyage qui devraient vous intéresser.
Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cuchule. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Que
C'était Dame, dis-moi de Christine and the Queen dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Djoubaka. Et à 17h52, c'est l'heure de retrouver notre train savate planétaire.
Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises.
Sur France Inter.
Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai, un baiser de Russie, un banco à Bangkok.
Le temps d'un bivouac.
Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait, tout.
Bonjour Pierre Josse.
Bonjour Daniel, bonjour Cyril.
Rédacteur en chef du guide du Routard, nous vous confions chaque semaine le soin de nous conter un ou deux souvenirs de voyage en lien avec notre sujet du jour. Et on commence avec le Togo.
Oui, on commence avec le Togo, et ça va dans droite ligne à tout ce qui a été dit avant. Je vous emmène à Koumakonda. Alors, faut imaginer, c'est un tout petit village, très modeste, à environ 120 km au nord de Lomé, la capitale. Et alors, comme caractéristique, un jour, il y avait un artiste peintre qui avait peint ses volets et sa porte avec des très jolis motifs. Son voisin lui dit, oh, dis donc, c'est vachement chouette ce que t'as fait, tu pourrais pas me faire la même chose? Et il fait la même chose chez le voisin. Et puis l'autre voisin à gauche, il dit, oh putain, un peu jaloux, il dit, moi, est-ce que je pourrais pas avoir un truc comme ça? Et finalement, tous les gens du village ont demandé à ce que ce peintre, artiste, colore, transforme les volets et les portes du village. Ce qui fait que des centaines et des centaines de portes et de volets ont été repeints, décorés, et transformant le village en une immense galerie d'art. C'est absolument extraordinaire. Mmh. Et puis un autre phénomène, il y a un prospère qui est un autodidacte qui a décidé, il y a une grande variété d'insectes et de papillons, de collectionner les papillons. Et il a fait un musée du papillon et des insectes qui fait référence dans toute l'Afrique de l'Ouest, et les savants du monde entier viennent lui rendre visite. Alors deux bonnes raisons d'en faire un village à motif touristique. Ceci dit, ne pas tomber dans le piège du tourisme de masse. Ce qui fait que, eh bien,
les habitants sont organisés pour pas tomber dans le piège du tourisme de masse.
Totalement conscients de ça. D'ailleurs, ouais. Ils ont organisé une brigade d'une dizaine de guides. Parce que les environs sont superbes. Il y a des chemins d'observation des insectes, des animaux, des plantes, etc. qui a été organisé. Et donc, Prosper, cet entomologiste autodidacte, a transmis son savoir à tous les guides, mais sans barguigner chez eux. Le savoir, c'est pas le pouvoir. Mmh. On partage. Et en outre, comme il fallait aussi des logements, on a créé des chambres d'hôtes dans des cases traditionnelles qui respectent l'architecture et dont les bénéfices vont directement dans les coffres du village. Donc, c'est entièrement géré collectivement et ça maintient la cohésion sociale, culturelle et économique du village.
Ouais, ça peut donner de nouvelles idées et puis une nouvelle idée du tourisme aussi, hein, Pierre.
Tout à fait. Et puis un tourisme authentique. Je veux dire, ouais. Qui touche les gens.
On est vraiment dans un exemple d'auto-organisation assez sympathique. Vous avez d'autres exemples aussi d'auto-organisation ailleurs dans le monde?
Oui, rapidement, c'est une île au fin fond du lac Titicaca, ouais. À 3 heures de bateau de Puno.
Donc on est au Pérou là.
Alors si on est au Pérou, excusez-moi, j'aurais dû le préciser, les Indiens taquilés sont à peu près 2000. Et alors, ils gèrent ce qu'on appelle des chambres chez l'habitant. C'est-à-dire, vous arrivez, vous débarquez, déjà vous avez 800 marches à faire parce qu'ils sont tout en haut. Alors, pour éviter les invasions, ils ont décidé de mettre leur village en haut d'une falaise. Et lorsque vous arrivez essoufflé, vous avez un bureau de distribution des chambres. Et c'est chaque famille, chacun son tour, qui bénéficie de la manne du tourisme. C'est quand même assez étonnant. Autre caractéristique, les hommes tricotent. Toute la journée, ils gardent des moutons, ils tricotent des chaussettes et des bonnets. Et donc là, il y a une vraie maîtrise. Et alors, je finis par une anecdote. Les gens de Holiday Inn, grosse compagnie hôtelière américaine, est venue il y a quelques années en disant « Bon, on voudrait construire un hôtel chez vous. Et vous allez être submergés par les dollars. » Et comme le conseil du village a refusé, ils se sont un peu moqués des villageois en disant « Mais vous êtes nuls !» Parce que moi, j'avais payé 2 dollars, ma chambre. Oui. Vous êtes nuls,
Vous êtes nuls en affaires, vous ne savez pas faire de l'argent, voilà, c'est ça qu'on leur reprochait.
On veut faire ruisseler l'argent chez vous. Et donc, très gentiment, avec un grand sourire ironique, ils l'ont pris par la chemise, ils l'ont remis sur le bateau en disant « C'est vrai, On gagnera jamais d'argent, on sera jamais riche, mais au moins, on va préserver l'esprit communautaire et on va pas foutre le bordel dans notre système économique et social. Au revoir, monsieur Holiday.
Ah, voilà une belle. Ça doit vous plaire, ça, en 30 secondes, Cyril Dion, ce genre d'histoire.
Ça me plaît tellement. Oui. Mais ça me plaît tellement que maintenant, il y a des études qui montrent que ça marche, en fait, ces systèmes-là. C'est-à-dire que quand on a été aux États-Unis, il y a un mouvement d'entrepreneurs américains qui disent que pour qu'il y ait un maximum d'argent qui soit distribué à un maximum de personnes, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie répartition des richesses, il faut qu'il y ait un maximum d'entreprises locales, indépendantes et une vraie diversité d'activités. Et si on n'a que quelques grosses entreprises, genre un gros Holiday Inn plutôt que plein de petites chambres chez l'habitant, bah en fait la richesse va être hyper concentrée dans les poches de quelques-uns.
Merci Cyril Dion et merci hein, Pierre Josse. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition à Hachette Le Routard. Merci Pierre et à la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous partirons à la découverte de l'histoire de l'élevage avec deux archéozoologues. Et à 17h, nous irons en Russie et en Asie sur les pas de l'écrivaine et photographe Ella Maillard. À demain donc pour de nouvelles aventures.